Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 19 avril 2023. En direct de Washington, Idrissa Seboudia pour commencer les titres. Au Soudan, malgré les appels au cessez-le-feu, tirs et explosions hier soir encore à Khartoum, la capitale. Les combats ont fait près de 200 morts. En RDC, poursuite des massacres en Ituri, plus de 150 civils tués depuis début avril dans cette province, selon l'ONU. Au Zimbabwe, le président Mnangagwa promet une présidentielle libre et juste cette année. Fox News versera 787,5 millions de dollars pour éviter un procès en diffamation sur la présidentielle américaine de 2020. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva condamne clairement la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Soudan, des tirs et des explosions ont encore secoué Khartoum, la capitale, mardi soir, malgré les appels à la trêve au quatrième jour de combat entre l'armée et les paramilitaires. Plus de 200 personnes sont mortes, selon les médecins et l'ONU. L'ONU recense plus de 1800 blessés. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
À l'issue d'une médiation du Soudan du Sud, les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan s'étaient engagés à une trêve de 24 heures pour évacuer les civils des régions les plus dangereuses. Mais à l'heure dite, 16 heures temps universel, explosions, colonnes de fumée, odeurs de poudre et rafales de tirs étaient toujours là. Il n'y a aucun signe d'apaisement à Khartoum et dans plusieurs autres zones, a constaté l'ONU mardi soir. L'armée et les forces de soutien rapide se sont empressées de s'accuser mutuellement d'avoir violé la trêve. Les avions militaires survolent toujours Khartoum où ils ont frappé 4 hôpitaux, selon des médecins qui disent que dans tout le pays, 16 hôpitaux sont désormais hors service. Dans la région du Darfour, dans l'ouest, la Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé ont appelé les belligérants à garantir l'accès aux personnes dans le besoin. Le patron de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dénoncé le pillage de certains établissements de santé et de l'utilisation d'autres à des fins militaires. Dans un pays où la faim touche plus d'un habitant sur 3, humanitaires et diplomates disent ne plus pouvoir travailler. De nombreux habitants sont cloîtrés chez eux sans électricité ni eau courante et voient leur stock de nourriture fondre. D'autres commencent à quitter Khartoum pour la province qui borde le sud de la capitale où il n'y a pas de combat. Les appels du G7, de l'ONU et des États-Unis à mettre fin aux violences n'y font rien pour le moment. Des hommes en treillis, parfois enturbanés, continuent de faire régner la terreur à Khartoum, tandis que les raids aériens de l'armée touchent des zones densément peuplées.
Les massacres continuent en Ituri, province du nord-est de la République démocratique du Congo, où plus de 150 civils ont été tués depuis début avril. C'est ce qu'a déploré mardi le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU, Nani Talani.
Selon l'ONU, 485 civils ont été tués début décembre en Ituri, province riche en or et en proie aux violences de plusieurs groupes armés, révèle son dernier rapport trimestriel fin mars. Parmi eux figure la milice Codeco, qui dit défendre la communauté Lendu, et la milice rivale Zaïre, qui dit protéger les Hima. La province est aussi la cible d'attaques des ADF, affiliés au groupe djihadiste État islamique. Durant les deux premières semaines d'avril, les attaques armées ont fait environ 150 morts dans les territoires de Djougou, Irumu, Mambasa, soutient le chat RDC, qui dit avoir noté une persistance des attaques contre les civils. L'ONU RDC signale aussi des attaques contre le centre de santé de Rimba, dans le territoire de Mahagi, saccagé le 12 avril par des éléments armés. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont depuis près de 2 ans sous état de siège, une mesure exceptionnelle qui a remplacé l'administration civile par la police et l'armée, mais qui ne parvient pas à stopper les violences.
Au Mali, 2 casques bleus ont été blessés hier par l'explosion d'une mine dans le centre du pays, a indiqué la MINUSMA, mission de l'ONU. Sur les réseaux sociaux, notre bureau à Mopti confirme une explosion près du village d'Amba, à 75 km à l'ouest de Douanza, blessant deux casques bleus faisant partie d'un convoi logistique en route vers cette région, a-t-elle tweeté sans préciser la nationalité des soldats. Vendredi, un autre casque bleu avait été grièvement blessé lorsque son véhicule a heurté une mine près de la ville de Douanza. Le véhicule visé faisait partie d'un convoi logistique venant de Tombouctou. Les mines et les engins explosifs improvisés sont une des armes de prédilection des djihadistes qui sévissent au Mali depuis 2012. La MINUSMA a été la cible de 9 attaques depuis début 2023, attaques qui ont coûté la vie à 3 casques bleus sénégalais et fait 5 blessés. Les Libyens font face à une opportunité historique de surmonter la crise dans laquelle leur pays est englué depuis 2011, a déclaré hier l'émissaire de l'ONU en Libye. Abdoulaye Bathily espère toujours la tenue d'élections cette année, Michel Joseph.
Une opportunité historique est ouverte pour surmonter cette décennie de crise, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité le Sénégalais Abdoulaye Bathily, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Abdoulaye Bathily a salué la tenue de plusieurs réunions en mars et avril à Tunis, Tripoli, Benghazi et Sebha, de représentants militaires des diverses régions qui se sont engagés à soutenir toutes les étapes des élections. Les rencontres entre les unités militaires et les formations sécuritaires de l'Est, de l'Ouest et du Sud représentent une percée. Ces rencontres portent une grande valeur symbolique sur le chemin vers la réconciliation et l'unification du pays, a-t-il ajouté. Des élections présidentielles et législatives, initialement prévues en décembre 2021, ont été reportées sine die en raison de divergences persistantes. M. Bathily avait annoncé en février une nouvelle initiative pour tenter de sortir de l'impasse et avait espéré qu'un accord puisse être trouvé d'ici mi-juin pour organiser des élections avant fin 2023.
Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, est accusé d'intensifier la répression de toute voix dissidente à l'approche de la présidentielle de cette année. Dans ce contexte, il a promis mardi une élection libre et juste. Le point avec Rosine Munezero.
Candidat à sa propre réélection au scrutin qui doit avoir lieu en août, mais dont la date n'a pas encore été confirmée, le chef d'État de 80 ans a appelé, dans un discours à l'occasion des célébrations du 43e anniversaire de l'indépendance de l'ancienne colonie britannique, à dire non à la violence avant, pendant et après le vote. Mon gouvernement a pris des mesures pour garantir des élections libres, équitables et crédibles, a-t-il déclaré. Arrivé au pouvoir en 2017 à la faveur d'un coup d'État contre Robert Mugabe, M. Mnangagwa avait remporté de justesse la présidentielle l'année suivante avec 50,8% des voix. Dans son discours mardi, il a mis en garde contre les voix étrangères ou locales, y compris les ONG malhonnêtes qui sèment les graines de la division et de la discorde, a-t-il dit. Début février, le Parlement a adopté une loi controversée restreignant drastiquement les libertés des ONG en les plaçant sous le contrôle du gouvernement et sous le coup de possibles sanctions.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Accusé de se faire l'écho de la propagande russe et chinoise, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a clairement condamné mardi la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie lors d'un déjeuner en l'honneur du président roumain en visite à Brasilia. Lundi, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, avait ainsi réagi aux propos du président Lula qui, lors d'un déplacement en Chine, avait accusé les États-Unis d'encourager la guerre en Ukraine et dit qu'il devrait plutôt commencer à parler de paix. Ces critiques font écho à celles formulées par Moscou et Pékin qui blâment les pays occidentaux pour la guerre qui a débuté en février 2022 avec l'invasion russe de l'Ukraine. À l'inverse de plusieurs puissances occidentales, Le Brésil n'a jamais imposé de sanctions financières à la Russie ou accepté de fournir des munitions à Kiev et tente de se positionner, tout comme la Chine, en tant que médiateur. La chaîne américaine Fox News a accepté de verser 787,5 millions de dollars à l'entreprise de machines de vote électronique Dominion, qu'il accusait de diffamation lors de l'élection présidentielle de 2020, a annoncé mardi l'avocat de cette dernière. « Les mensonges ont des conséquences », a-t-il déclaré. « Cet accord négocié évite à la chaîne préférée des conservateurs américains un procès embarrassant. Pour sa part, Fox News s'est dite satisfaite. « Nous sommes heureux d'être parvenus à un règlement de notre différend avec Dominion Voting Systems », a déclaré dans un communiqué la chaîne. Fox News a aussi dit prendre acte d'une décision de la Cour jugeant fausse certaines affirmations concernant Dominion. Le procès était très attendu aux États-Unis, où il était vu comme un test pour les limites de la liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution, tout autant que pour la lutte contre la désinformation. La Minute Écho, Rosine Mounezero.
Rwandair a annoncé le lancement de ses premiers vols directs vers avec le programme d'expansion de la compagnie, a expliqué Yvonne Makolo, PDG de Rwandair. Le gouvernement tanzanien a signé lundi des contrats d'une valeur de 667 millions de dollars avec trois entreprises australiennes pour l'extraction de graphite et des minéraux rares. Ces accords cadres s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la présidente Samia Suluhu Hassan pour porter la contribution du secteur minier à l'économie tanzanienne à au moins 10% d'ici à 2025. Le nombre d'Afghans pauvres a presque doublé entre 2020 et fin 2022 pour atteindre les 34 millions, selon les estimations publiées mardi par l'ONU. L'institution met en garde contre l'aggravation de la situation économique avec les mesures prises par les talibans à l'encontre des femmes. En 2022, le PIB de l'Afghanistan a baissé de 3,6% selon les estimations de l'étude. En 2023, il pourrait augmenter de 1,3% si le niveau de l'aide étrangère se maintient.
Merci Rosine. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaîtra ce soir les deux derniers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, pas beaucoup de suspense concernant les deux derniers quarts de finale retour ce mercredi à 19h temps universel. L'Inter Milan du portier camerounais André Onana s'est imposé 2-0 à Lisbonne contre Benfica, tandis que Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez a grignoté le Bayern Munich 3-0 à domicile. Le club allemand peut-il renverser les citizens? L'atmosphère n'est pas propice à un exploit, refroidi par l'altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané après la lourde défaite à l'Etihad Stadium. Le coup de sang du Sénégalais a pollué l'atmosphère chez les Bavarois avant la manche retour. Pas l'idéal avant de retrouver Erling Haaland, l'actuel meilleur buteur de la compétition avec 11 réalisations, encore crédité d'un doublé ce week-end en Premier League. Du côté de l'Inter Milan, l'espoir d'une première demi-finale depuis 2010, année de son dernier sacre en Ligue des Champions, n'a jamais été aussi grand. Les Nerazzurri soufflent le chaud et le froid en championnat et misent sur l'Europe pour conserver des étoiles dans les yeux. En face, Benfica veut croire en ses chances. 2 buts d'écart, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais nous devons y croire, a lancé l'entraîneur Roger Smith après la manche aller.
Hier, le Real Madrid et l'AC Milan ont assuré leur place dans le dernier carré.
Le Real Madrid, tenant du titre, a écarté Chelsea 2-0 comme à l'aller pour accéder aux demi-finales. L'AC Milan a aussi rempli sa part du contrat après avoir gardé la tête froide dans le volcanique stade Diego Maradona de Naples, hôte d'un quart de finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Score final, 1-0, suffisant pour les Milanais qui l'avaient remporté à l'aller 1-0. La ferveur de Tifosi n'a pas suffi au Napoli ni le retour de leur attaquant vedette. Le Nigérian Victor Osimhen, forfait à l'aller, buteur en toute fin de match. Les Azzurri ont été privés du Camerounais Franck Zambo Anguissa, suspendu. L'AC Milan retrouve ainsi les demi-finales de la Grande Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2007, l'année de son dernier titre. Dans le dernier carré, un choc se profile donc à l'horizon entre le Real Madrid et Manchester City. qui voudra terminer le boulot à Munich ce soir. Et un derby de Milan se dessine si l'Inter ne se fait pas surprendre par Benfica à San Siro.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Soudan, malgré les appels des ministres des Affaires étrangères du G7, de l'ONU et des États-Unis à mettre fin immédiatement à la violence, les combats se poursuivent. Les habitants restent cloîtrés chez eux sans électricité ni eau courante. Les morts se comptent par centaines avec des milliers de blessés alors que le système de santé est fortement perturbé. Idriss Fall a recueilli la réaction de Noureddine Sati, ancien ambassadeur du Soudan aux États-Unis.
On peut éviter la catastrophe au Soudan en essayant de mettre la pression sur les belligérants d'arrêter cette guerre et de tout faire pour protéger les civils qui sont en danger maintenant permanent, qui manquent de tout et qui sont maintenant assujettis à toutes sortes d'attaques, y compris par des missiles, même dans les zones, disons, résidentielles.
Il y a eu beaucoup d'appels à un cessez-le-feu immédiat, le G7, les États-Unis, l'Angleterre, l'Union africaine et même, je crois, l'Égypte et l'Arabie saoudite travaillent. Mais on a l'impression que les belligérants ne veulent pas entendre ces appels-là.
Oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de pression, il n'y a pas suffisamment de consensus. Vous avez nommé l'Égypte, par exemple. L'Égypte a fait cavalier seul. Et jusqu'à maintenant, il a fait cavalier seul. Il a appuyé l'un des belligérants contre l'autre, alors que les autres, tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'IGAD, l'Union africaine, les Européens, les Américains, sont en train de travailler pour avoir un règlement pacifique tenant compte de la nécessité de travailler avec les deux belligérants et avec la société civile ou avec la composante civile.
Les deux belligérants ne semblent pas prêts de s'arrêter.
Vous savez, ce n'est pas surprenant. Si vous examinez l'historique de ces deux belligérants, ce sont des criminels de guerre. Ils ont commencé cette guerre au Darfour et maintenant ils l'ont transférée à Khartoum et dans les autres zones urbaines.
On peut dire maintenant que ce sont les populations civiles qui sont les plus gros perdants.
Bien sûr, c'est les populations civiles, c'est le Soudan, c'est le processus politique, le processus démocratique qui sont les perdants. Mais maintenant, ce qui est vraiment urgent, c'est d'essayer de venir à l'aide à la population civile en arrêtant cette guerre. Parce que ces gens-là n'ont aucune conscience, à force qu'ils ont, pendant des années, des décennies, je dirais même, disons, lancé des guerres contre les civils, ils trouvent ça tout à fait normal. Ils ne voient pas de mal à faire cela à partir du moment où ils vont, disons, atteindre leurs objectifs, c'est le contrôle du pouvoir et le contrôle de l'argent. Le pouvoir et l'argent. C'est tout ce qu'il...
Le général Burhan ou bien Hemeti?
Tous les deux. Moi, je mets tous les deux dos à dos. Je fais la distinction entre une armée supposée être nationale et une milice qui a été intégrée dans cette armée par les responsables de l'armée eux-mêmes. Que c'est Bachir et puis après lui, c'est Burhan qui ont cautionné cette milice et qui l'ont intégré au sein des forces armées, tout en le laissant d'avoir son propre commandement.
Noureddine Sati, ancien ambassadeur du Soudan aux États-Unis, joint par Idriss Fall.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Soudan toujours, des affrontements entre généraux au pouvoir ont donc fait des centaines de victimes civiles à Khartoum au cinquième jour de la lutte. Les habitants privés d'électricité et d'eau courante sont principalement confinés chez eux et voient leurs réserves alimentaires diminuer rapidement. Les rares épiceries encore ouvertes avertissent qu'elles ne pourront plus tenir longtemps sans approvisionnement. Des groupes de femmes et d'hommes commencent à fuir vers le sud pour échapper au combat. Pour discuter de la situation, Eric Manirakidza a joint Germain Mouehevou, porte-parole du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, à Khartoum.
Nous avons lancé un appel public pour faire passer le message demandant de respecter les fondamentaux du droit international humanitaire. En plus du message public, nous avons aussi passé des messages de façon bilatérale aux personnes qui sont dans les deux camps, le camp de l'armée nationale du Soudan ainsi que le camp de RSF, Rapid Support Forces. Nous avons passé le message aux deux camps, leur demandant de respecter les bases du droit international humanitaire.
Est-ce que vous essayez de joindre quelques populations pour savoir dans quelle situation elles se trouvent ou est-ce que les autres humanitaires aussi ont les mêmes difficultés que le CICR?
Je pense que les humanitaires ont les mêmes difficultés que le CICR, de même que le Croissant-Rouge soudanais. Évidemment, nous vivons ensemble avec les populations. Donc les difficultés auxquelles font face les populations dans les villes sont aussi les mêmes difficultés auxquelles nous sommes confrontés. En vous parlant présentement, la maison dans laquelle je me trouve, il n'y a pas d'électricité. Donc les conséquences sur les populations civiles affectent tout le monde, y compris les humanitaires que nous sommes.
Et comment vous voyez l'issue de cette situation ?
Difficile de le dire. C'est un conflit qui a des raisons d'ordre politique qui échappent aux humanitaires que nous sommes. Nous souhaitons juste une issue heureuse, c'est-à-dire la fin des affrontements puisse intervenir le plus tôt possible. S'il n'y a pas fin des affrontements, au moins que les belligérants puissent protéger les populations civiles, faciliter le travail des humanitaires, laisser les ambulances circuler et laisser aussi le personnel qui travaille pour les infrastructures d'eau et d'électricité faire leur travail.
Comment aujourd'hui les hôpitaux fonctionnent dans cette situation? Ils ne peuvent pas recevoir de l'aide des humanitaires.
Tout à fait. C'est la même situation. Les hôpitaux sont aussi dans la même situation, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'électricité et lorsqu'il n'y a pas d'eau, ça concerne aussi les hôpitaux. Lorsque les ambulances ne peuvent pas circuler, cela signifie que les blessés et d'autres malades ne peuvent pas être transportés vers les hôpitaux. Cela signifie aussi que le personnel de santé ne peut pas se rendre à l'hôpital pour aller prodiguer des soins de santé à ceux qui sont dans le besoin. La situation actuelle fait aussi que les hôpitaux sont en rupture de stock en ce qui concerne les médicaments et les fournitures médicales de façon générale. Parce que pour pouvoir être approvisionné, il faut que ça vienne de quelque part, que ça traverse les routes et atteindre les hôpitaux. Donc le fait qu'il n'y a pas de circulation de biens et de personnes dans la ville à cause des affrontements qui s'y déroulent, ça affecte dangereusement les hôpitaux. Les conséquences, bien évidemment, c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure, des personnes qui sont en train de perdre la vie, tout simplement parce que les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner normalement.
Joint à Khartoum, Germain Mouehou, porte-parole du CICR, Comité international de la Croix-Rouge.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, gros plan sur les combats meurtriers au Soudan entre l'armée et les paramilitaires, des puissantes forces de soutien rapide. La population prise au piège de ces affrontements paie un lourd tribut. De nombreux civils ont déjà péri dans cette guerre ouverte entre Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays, et son numéro 2, Mohamed Hamdan Dagalo, deux généraux à l'origine du coup d'État d'octobre 2021 et qui se disputent désormais le pouvoir. La communauté internationale a appelé à l'arrêt immédiat des hostilités. Comment en est-on arrivé là et comment ramener la paix? Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
Au Burundi, les dernières pluies diluviennes ont déjà fait au moins 6000 personnes déplacées dans la zone de Gatumba, dans la province de Bujumbura rurale, frontalière avec la RDC. Une aide gouvernementale promise aux familles n'est toujours pas arrivée. Notre correspondant Christophe Kurundiza a rencontré quelques personnes désormais sans abri. Son reportage.
Ils sont des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été obligés de chercher refuge sur les sites de Kinyinya, Mushaha, Muyange, dans la zone de Gatumba au sud de Bujumbura, pour être enregistrés par des agents de la Croix-Rouge sur place. Ces personnes, dont leurs maisons ont été détruites suite aux fortes pluies, n'ont plus de logis, sans nourriture, sans abri, elles vivent dans le dénuement total. Malgré leurs prières quotidiennes, rien ne s'améliore. Renova Ngendakuma en a 51 ans, est en père de famille de 5 enfants.
Nous vivons très mal, nous n'avons rien à manger parce que nous n'avons pas de travail. Et même l'eau a emporté les légumes lengalenga là où nous avions l'habitude de les cueillir. Et il n'y a personne qui nous aide, on est désœuvrés. L'État ne nous a rien donné jusqu'à présent, nous ne pouvons pas vivre convenablement sur ce site.
Une vieille dame, Régine Naokirishiga, 63 ans, vend des tomates, aubergines et légumes sur le site des déplacés. Elle demande aux autorités de bâtir les digues séparant la rivière Rusizi et le lac Tanganyika. Ainsi, elle affirme pouvoir rentrer et reconstruire sa maison détruite par les inondations.
Si les digues sont construites sur la rivière Rusizi, nous serons capables de cultiver nos champs, récolter et manger normalement. Maintenant, la rivière arrache toutes nos récoltes. Les vents violents ont détruit toutes les tentes dans lesquelles nous vivons. Nous demandons que l'État construise ces digues.
Ce cri de détresse est aussi celui de beaucoup de familles démunies qui n'ont rien à se mettre sous la dent. Alexis Yamourenye est le responsable du site.
La Croix-Rouge a promis qu'elle va construire 200 maisonnettes. Nous demanderons au Programme alimentaire mondial de venir en aide car les gens ici ont faim. Notre cri de détresse s'adresse aussi à tous les bienfaiteurs qui peuvent nous aider à bâtir les toilettes.
Beaucoup de déplacés sur les sites de Gatumba ont demandé au gouvernement burundais de construire des digues d'aménagement de la rivière Rusizi. C'est une promesse qui sera réalisée dans un futur très proche, selon le général de brigade Anicène Nibaruta, chargé de la protection civile et gestion des catastrophes.
C'est une activité qui est prévue sous le projet qu'on met en œuvre avec l'appui du PNUD, avec un montant de 350 000 dollars. C'est de l'argent qui est disponible.
Selon la coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires, le Burundi a besoin de 194 millions de dollars pour l'assistance de plus d'un million de personnes qui sont dans la précarité. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI se sont tenues du 10 au 16 avril 2023, ici à Washington. Parmi les sujets débattus, l'implication du secteur privé, notamment dans la mobilisation des financements pour le développement des pays émergents. À cet effet, une coordination est nécessaire entre les secteurs publics et le privé. Ce sera expliqué au micro d'Alexandrine Ologno, le directeur régional en charge du secteur financier à la Société financière internationale Aliou Maïga.
Effectivement, on vient de finir les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds. C'est une réunion importante pour nous pour faire le point avec nos clients, mais également du secteur privé. Donc, c'est une opportunité de voir comment va le continent, quelles sont les préoccupations des gouvernements. Et évidemment, le développement d'un pays, c'est des politiques publiques, mais des investissements qui sont essentiellement du secteur privé. Donc, cette coordination publique-privé était très importante et nous pensons que le rôle du secteur privé doit continuer à augmenter si on veut changer la dynamique de développement de nos pays.
Autre question urgente qui revient dans les pays émergents, c'est le renforcement des chaînes de valeur agricole, parlant de la sécurité alimentaire. Oui. Comment les institutions financières comme la SFI accompagnent ces initiatives?
On a un département qui s'occupe de l'agribusiness, donc de l'agriculture primaire aux chaînes de valeur, à la transformation agricole, jusqu'à la distribution au foyer. On est impliqué avec beaucoup de sociétés sur toutes les chaînes de valeur. L'agriculture, surtout la sécurité alimentaire en Afrique, est un problème important parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup importé des pays asiatiques où la productivité et le coût de certaines matières premières telles que le riz, telles que le sucre, telles que le blé qui vient de l'Europe de l'Est, étaient telles que l'Afrique avait peut-être intérêt à importer. Mais aujourd'hui, on voit bien que d'un point de vue économique, mais surtout d'un point de vue souveraineté économique et politique, on doit aussi avoir une base de production locale. Et donc, on travaille beaucoup avec les gouvernements et avec la Banque mondiale pour voir dans quelle mesure on peut vraiment changer cette tendance. On ne veut pas arrêter d'importer, mais on veut qu'on ait une certaine indépendance pour éviter le choc qu'on a vu avec la situation actuelle.
Le directeur régional en charge du secteur financier à la Société financière internationale, Aliou Maïga. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnou, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.